brisé à cœur comme la dernière fois que.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien du lundi au jeudi. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On a 15 degrés actuellement au centre-ville de Victoria à 16h et des poussières. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Aujourd'hui, 23 juin, c'est jour d'Assemblée générale annuelle pour CILS FM 107,9. Vous y êtes invités, bien sûr. Venez nous retrouver nombreux à l'école Victor Brodeur. Les portes ouvrent à 18h30. L'AGA comme telle va commencer à 19h. Donc, au plaisir de vous retrouver sur place en personne en cette veille de Saint-Jean-Baptiste. Pour l'instant, on écoute les bulletins d'actualité de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouvera dans quelques minutes pour la suite des infos qui porteront aujourd'hui en grande partie sur le Brexit, le British Exit référendum qui a eu lieu aujourd'hui. Les bureaux de vote ont fermé il y a quelques heures. Donc, on aura aussi, bien sûr, des infos provinciales pour vous dans cette édition. Restez à l'écoute. Le débrief est rendu possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Justin Trudeau a fait le point sur les travaux de son gouvernement depuis son élection l'automne dernier. Lors d'un point de presse tenu à Ottawa, le premier ministre a dit qu'il est heureux de voir que son gouvernement ait déjà rempli certaines promesses électorales. Il a souligné la baisse d'impôts consentis aux familles de la classe moyenne. Justin Trudeau a aussi rappelé la nouvelle entente pour améliorer le régime de pension du Canada. Lancement d'un processus fédéral de consultation nationale sur l'élaboration d'une loi prévue, laquelle va transformer, selon le gouvernement, la manière dont il traite les questions d'accessibilité. Ministre des Sports et des Personnes handicapées, Carla Caltrow, a insisté sur l'importance cruciale de l'accessibilité. Le gouvernement Trudeau souhaite savoir ce que les gens pensent de cette loi, qui devrait-elle viser et quels problèmes la loi devrait-elle traiter. Le processus de consultation se déroulera jusqu'en février 2017. Contribution de 235 000 $ pour la mise au point et la commercialisation d'un test du système respiratoire et des diagnostics reliés à la maladie de l'asthme. Les travaux seront menés à l'Université de la Saskatchewan. Le gouvernement fédéral a mentionné dans un communiqué que l'asthme est la maladie chronique la plus courante chez les enfants et constitue un domaine de dépenses important partout au Canada, tant pour les adultes que pour les jeunes. L'Office national de l'énergie a revu les montants d'argent qui seront admissibles aux intervenants à l'audience du projet Énergie Est. Le montant est passé de 5 à 10 millions de $ au cours des dernières heures. L'Office a confirmé le tout et a aussi souligné qu'il s'agit du plus gros montant jamais consenti dans le cadre du programme d'aide financière aux participants. Le comité d'audience a aussi confirmé avoir accordé le statut d'intervenant à 337 demandeurs et 271 auteurs de lettres de commentaires seront également présents. La première étape du processus d'audience aura lieu dans 10 localités entre août et décembre 2016, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. L'Institut Fraser s'est prononcé sur les changements aux règles électorales du pays. L'Institut estime que le gouvernement fédéral doit tenir un référendum pan-canadien afin de respecter les conventions établies et croit que tout changement sans référendum pourrait être vu comme étant une violation des règles constitutionnelles. Lydia Miljan, membre de l'Institut Fraser, a déclaré que toute modification apportée à la façon dont les Canadiennes et Canadiens élisent leur gouvernement fédéral sans le consentement de l'électorat pourrait être vue comme étant inconstitutionnelle. Hillary Clinton a pris la parole lors d'un rassemblement en Caroline du Nord. Elle a riposté notamment à Donald Trump. Elle a tracé les grandes lignes de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Elle a dit qu'il faut revoir le dossier des dettes étudiantes et des coûts reliés à l'enseignement. Elle a aussi mentionné qu'il faut que les très riches paient leur part d'impôts tout en augmentant le salaire minimum. L'ancienne secrétaire d'État suggère également des investissements majeurs dans les infrastructures et un secteur énergétique durable et renouvelable. David Johnston remettra des décorations pour Service Méritoire Division Civile à 52 récipiendaires de divers secteurs au pays aujourd'hui. Créée en 1991, la Division Civile reconnaît les personnes ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur à leur communauté partout au Canada. C'est du 17 au 20 octobre prochain qu'aura lieu la conférence mondiale Habitat 3 des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. Et le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a confirmé, lui, le lancement de consultations publiques sur le nouvel agenda urbain. La conférence aura lieu à Quito, en Équateur. Au sport au hockey, bien la Ligue nationale a confirmé suite à une rencontre des gouverneurs que la ville de Las Vegas avait été retenue pour la prochaine expansion en 2017-2018. Gary Bettman a dit en entrevue que la ville de Québec devra attendre. C'était également remise des trophées individuels hier soir. Notons entre autres que Patrick Kane s'est mérité le trophée Hart après avoir remporté le Hart Cross à titre de meilleur compteur en saison régulière. Également, Braden Holtby a gagné pour sa part le Vezina en tant que meilleur gardien. Artemi Panarin a reçu, lui, le Calder et soulignons que le Norris est allé à Drew Doughty. Baseball majeur, victoire de Toronto 5-2 contre l'Arizona. Les Jays sont inactifs ce soir, ils seront à Chicago demain. Football canadien, début ce soir de la saison 2016, Hamilton sera à Toronto. Et à New York ce soir, présentation du repêchage de la NBA.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Vous êtes dans le débrief, il est 16h07. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107.9. On va passer aux nouvelles provinciales à présent. On constate une hausse du tourisme assez marquée en Colombie-Britannique depuis le début de l'année 2016. Déjà plus d'un million de touristes étrangers en 2016 en Colombie-Britannique. Le nombre de touristes internationaux en Colombie-Britannique a dépassé le seuil du million dans les premiers mois de 2016, une augmentation de 18,2% en un an, selon le gouvernement provincial. La province a accueilli 1 172 637 visiteurs étrangers de janvier à avril, a indiqué Victoria mercredi. En avril, 328 006 touristes se sont rendus en Colombie-Britannique, ce qui représente une augmentation de 21% comparativement au même mois l'an dernier. Ce serait donc, selon le ministère du Tourisme, le nombre de touristes le plus élevé de la dernière décennie pour un mois d'avril. La plus grande progression de visiteurs en un an provient d'Allemagne, talonnée de près par la Chine et la Corée du Sud. La province de Colombie-Britannique attribue cette augmentation à la mise en place de nouveaux vols vers l'aéroport international de Vancouver, en provenance de ces pays, mais aussi à la faiblesse du dollar canadien. La popularité du tourisme sur les thématiques autochtones a aussi connu un boom, selon Victoria, qui indique que c'est un des marchés touristiques qui croît le plus rapidement à l'heure actuelle en Colombie-Britannique. Les revenus du tourisme autochtone ont doublé entre 2006 et 2012, passant de 20 à 42 millions de dollars. On mentionne par ailleurs un départ à la retraite dans le cabinet de la première ministre Christy Clark. Le ministre de l'énergie, de l'énergie et des mines de la Colombie-Britannique quittera la vie politique à la fin de son mandat et ne tentera donc pas de se faire réélire aux prochaines élections. Il s'agit de Bill Bennett. Il en a fait l'annonce cette semaine. Il a indiqué qu'il désirait passer plus de temps avec sa famille après une carrière politique de 15 ans. Voilà, donc ça, c'est un départ assez important au cabinet de Christy Clark. Bill Bennett a d'ailleurs remercié chaleureusement la première ministre dans son discours d'adieu. On va également vous mentionner la question des super pétroliers au large des côtes de la Colombie-Britannique et en particulier sur le littoral nord de la province. Donc, on parle de navigation de super pétroliers. C'est un sujet chaud. Le premier ministre Justin Trudeau refuse de dire si son gouvernement interdira les pétroliers dans la partie nord du littoral britanno-colombien, conformément à la promesse faite durant la dernière campagne électorale. Nous nous efforçons quotidiennement de protéger tant l'environnement que l'économie à l'échelle du pays, s'est-il borné à indiquer lors d'une récente déclaration faite aux médias. Il aurait encore déclaré récemment, toutefois, qu'à son avis, les super pétroliers n'avaient pas leur place au large des côtes du nord de la Colombie-Britannique. Beaucoup de gains réalisés par Trudeau, des gains électoraux en Colombie-Britannique lors de la dernière élection, ont été rendus possibles du fait de cette opposition du Parti libéral au super pétrolier. Donc c'est une question qui était à l'avant-plan lors de l'élection d'octobre 2015. Joyce Murray, qui est d'ailleurs une élue libérale de la circonscription Vancouver-Quadra, a déclaré il y a quelques jours avoir bonne confiance de voir Trudeau mettre en place le moratoire sur les super pétroliers tel que promis. Des observateurs de la scène politique provinciale ont avancé que ce moratoire, s'il est déclaré, sera peut-être assorti d'une exemption pour la compagnie Enbridge si celle-ci accepte de déplacer son projet de terminal d'oléoduc Northern Gateway de Kitimat vers une localité plus au nord, soit à proximité de Prince Rupert. L'OBNL environnementaliste West Coast Environmental a confié au Times Colonist que le ministre des Transports, Marc Garneau, lui avait indiqué en début d'année 2016 que ce moratoire allait entrer en vigueur d'ici 2017. Donc, il y a des signaux quand même encourageants concernant ce moratoire, mais ça n'est pas encore scellé. Le premier ministre n'a pas encore tranché dans ce dossier. Enbridge, pour sa part, a jusqu'à la fin de 2016 pour entamer la construction, donc les travaux de ce pipeline Northern Gateway. La compagnie qui n'a pas le soutien des Premières Nations, disons-le, et peu d'appui au sein de la population civile par ailleurs, a demandé une prolongation de 3 ans à l'Office national de l'énergie. Il en sera question un petit peu plus tard dans cette émission de ce pipeline Enbridge avec mon invité François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative. Je vous mentionne également dans ce segment provincial-régional que la ville de Victoria, en partenariat avec le district de Saanich, sont toujours dans la course auprès de la BCLC, qui est la société de loterie et de jeux de la Colombie-Britannique, en vue de la construction d'un casino au centre-ville. C'est le site de Crystal Gardens, non loin du Parlement et du Royal BC Museum, à l'angle de Douglas et Belleville, grosso modo, qui est envisagé pour ce nouvel établissement, pour ce nouveau casino. Ça a été couvert pas mal par la presse locale. Vous trouverez notamment un article là-dessus dans le portail vicnews.com. Je vous mentionne par ailleurs qu'une nouvelle bibliothèque du réseau des bibliothèques de Victoria est en construction actuellement dans le quartier de James Bay. C'est très intéressant. C'est une bibliothèque donc qui va être érigée derrière le Parlement de Colombie-Britannique. Elle fera partie d'un développement immobilier appelé Capital Park. Et la première phase de ce développement sera complétée dans environ 12 mois. Donc, ça sera intéressant, une nouvelle destination pour les bibliophiles à Victoria prochainement, dans un horizon d'environ 1 an. Je termine ce segment provincial, régional, avec une nouvelle à propos de Molson Coors, la brasserie géante, la transnationale Molson Coors, qui aurait trouvé à présent le site de sa nouvelle brasserie, qui succédera avec des équipements plus modernes cette fois à celle que la compagnie avait fermée après 50 ans d'activité en novembre dernier au centre-ville de Vancouver. Donc l'emplacement de la nouvelle installation très moderne de Molson Coors sera à Chilliwack, en périphérie de Vancouver, a appris la CBC. On jette un œil à la météo. Il fait 18 degrés actuellement. Le mercure a monté de quelques degrés cet après-midi. On a une probabilité d'averse pour les prochaines heures qui se situe à environ 40%. Donc, ça reste nuageux. Demain, un mélange de soleil et nuages avec une probabilité d'averse de 40%. Pour la Saint-Jean avec un maximum de 19 degrés. On va se transporter en musique quelques minutes. On écoute Ariade avec la pièce Fauchée et on se retrouve avec la nouvelle du jour. Excellent morceau de la formation Ariade dans le débrief, ça s'intitule Fauché. Merci d'être à l'écoute de CILS. L'info se poursuit dans le débrief, il est 16h18. On va passer à la nouvelle du jour. Aujourd'hui, ça n'est pas une actualité brûlante, c'est plutôt un portrait d'entreprise que nous propose Le Monde. C'est sur le site du Monde dans la section Pixel, qui est toujours intéressante, une section qui est consacrée à l'économie numérique et aux innovations technologique. Il s'agit d'un portrait d'un émule de Google, donc un moteur de recherche, cependant avec une distinction bien importante, l'anonymat. Donc c'est vraiment ce qui distingue ce moteur de recherche qui s'appelle Quant. C'est un petit moteur de recherche français qui table sur l'anonymat, je le disais, et qui gagne en popularité de plus en plus. Je vous lis quelques passages de cet article paru dans la section Pixel du Monde. Depuis plus de 3 ans, la start-up française Quant essaie de prouver qu'un moteur de recherche peut être efficace et rentable tout en respectant la vie privée et l'anonymat des utilisateurs. Après un démarrage lent et difficile, Quant est enfin en train de décoller. 21 millions de visiteurs en mai 2016 contre seulement 8 millions 6 mois plus tôt, donc c'est presque du simple au triple. Éric Léandri, cofondateur et directeur de la société, est très confiant. C'est parti, dit-il. Nous comptons désormais sur une progression de 15 à 20% par mois. 50% des utilisateurs sont en France, 30% en Allemagne. Donc c'est très européen pour le moment. Mais je mentionne entre parenthèses que je l'ai moi-même essayé et c'est maintenant dans mes signets. Alors le nombre d'utilisateurs ailleurs qu'en Europe va aussi grimper vraisemblablement dans les prochains mois. L'article continue. Cette implantation très localisée correspond à l'identité de la société qui emploie une 60aine de personnes. Les bureaux et les serveurs sont à Paris, les équipes de développement à Nice. La présence en Allemagne est assurée par le groupe de presse Springer, actionnaire à hauteur de 20% et partenaire technique important. Tout cela reste bien sûr minuscule face à Google, qui détient un quasi-monopole du marché européen. Mais selon Éric Léandri, le fondateur, cofondateur, ces chiffres encourageants prouvent que les mentalités commencent à changer. Des millions d'Européens refusent d'être soumis au système de surveillance de masse imposé par les géants américains du net et cherchent conséquemment des alternatives. À première vue, Quant est un moteur de recherche classique qui classe les résultats par grandes catégories, web, actualité, réseaux sociaux, images, shopping, musique, etc. Mais en coulisses, il est très différent, ce moteur de recherche, de Google et des autres moteurs commerciaux. Quant ne traque pas ses utilisateurs avec des cookies, à savoir des petits fichiers qui stockent les informations de navigation. Il ne collecte aucune donnée personnelle de navigation ou de localisation, n'effectue aucun profilage des utilisateurs. Nous ne gardons même pas les adresses Internet, affirme Éric Léandri. Pour chaque nouvelle session, le numéro IP du visiteur est crypté et transformé en une chaîne de caractères à laquelle on ajoute des chiffres aléatoires, ce qui empêche de reconstituer le numéro originel. De ce fait, les résultats proposés ne dépendent pas du profil de chacun. Ainsi, dit Léandri, le cofondateur, si deux Français tapent la même requête, ils obtiendront exactement les mêmes résultats, puisque nous ignorons qui ils sont. Nous n'enfermons pas les utilisateurs dans leurs préférences supposées, nous leur permettons de faire des découvertes plus larges, inattendues. Pour sélectionner et hiérarchiser les contenus, Quant a créé un système d'intelligence artificielle baptisé Iceberg, dont les algorithmes prennent en compte une large gamme de critères, qualité technique et éditoriale du texte ou de l'image, liens menant vers la page, commentaires et mentions sur les réseaux sociaux, comportement en ligne de l'auteur, etc. Quant établit ainsi des palmarès thématiques évolutives qui serviront de base au choix pour chaque requête. Bien sûr, dit le fondateur, Quant reste subjectif car en amont, c'est nous qui décidons du poids qui sera attribué à chaque critère. Mais en même temps, nos résultats sont neutres car à l'arrivée, aucun humain ne vient les corriger. Pour gagner de l'argent, Quant utilise la méthode classique du paiement au clic, comme Google le faisait jusqu'en 2009. Alors, c'est ça leur modèle d'affaires. Le cofondateur indique l'article insiste sur la dimension éthique et sociétale de son aventure. Avec notre technologie, dit-il, nous pourrions gagner beaucoup plus d'argent en faisant du marketing de pointe, mais ce n'est pas notre intention. Nous voulons montrer qu'on peut gagner sa vie tout en ayant une pratique éthique propre, respectueuse des droits et des modes de vie des Européens. Face à eux, face à ceux qui veulent surveiller tout le monde tout le temps, nous proposons un autre projet de société fondé sur la liberté individuelle. Donc on va peut-être croire la parole de ce cofondateur du moteur de recherche Quant. En tout cas, ça nous changera de Google. Ça serait peut-être bon de l'ajouter dans vos signets et dans vos plugins de recherche dans votre navigateur. Voilà, donc pour ce portrait paru dans la section Pixel du journal Le Monde à propos de Quant. On va retourner en musique. On écoute l'artiste Girard, un auteur, compositeur, interprète qui vient tout juste de lancer un nouvel album intitulé Quelque chose dans l'air. On écoute la pièce éponyme Quelque chose dans l'air. On se retrouve tout de suite après pour l'agenda culturel. Auteur, compositeur, interprète Girard dans le débrief. Merci d'être à l'écoute de CILS. On est ensemble jusqu'à 17h. On va passer à la revue de presse des éditos. Tout ce qu'on a pu repérer d'intéressant dans la limite du temps imparti, bien sûr, sur le web. On parle beaucoup du Brexit. D'ailleurs, il y a un petit changement de programme. Notre interview tout à l'heure concernera le Brexit. On va remettre à plus tard tard, donc à lundi, cette rediffusion de l'interview avec Monsieur François Brassard. Ce sera l'ex-ambassadeur Marc Lortie à l'antenne de CILS dans quelques minutes seulement à propos du Brexit. Alors, restez bien à l'écoute. On commence cette revue de presse avec un texte paru dans les pages du Devoir. C'est signé par Guy Taillefer et c'est une analyse finalement des enjeux du Brexit. Les Britanniques se prononcent aujourd'hui, jeudi 23 juin, par référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. S'il coule de source que l'UE souffre de graves dysfonctions et d'un important déficit démocratique, cela ne revient pas pour autant à dire que les Britanniques auraient intérêt à entériner leur sortie de l'Union, à savoir entériner le Brexit. Vrai que leur insularité fait en sorte que les Britanniques sont par nature et depuis toujours des eurosceptiques, il ne faudrait cependant pas perdre de vue qu'en l'occurrence, le psychodrame dans lequel ils se sont plongés est avant tout le résultat d'un calcul électoral partisan fait par le Premier ministre David Cameron. En 2013, assiégé par l'aile anti-européenne de son parti conservateur à l'approche des élections générales de 2015, M. Cameron avait réussi à mettre le couvercle sur les divisions en promettant la tenue d'un éventuel référendum sur l'appartenance à l'UE. Alors nous y sommes. Sur le plan électoral, il a gagné son pari l'année dernière en remportant aux communes une petite majorité de sièges pendant que, signe des stress malsains à suivre, les réactionnaires de l'UKIP, UK Independence Party, un parti anti-européen et anti-immigrant, eux avaient triplé leur part des voix. Donc, c'est avec ce calcul que M. Cameron s'était faufilé au gouvernement, assurant ainsi sa réélection, mais par une mince avance seulement. Alors, le rendez-vous du Brexit fatidique a lieu maintenant. L'auteur de ce texte, donc Guy Taillefer, poursuit. Pas sûr maintenant que M. Cameron remportera son pari référendaire, que le camp du Leave sorte gagnant et les pressions seront fortes pour qu'il démissionne, auquel cas la Grande-Bretagne se trouverait immédiatement confrontée à un grand tumulte politique en même temps qu'à la peur collective du vide induite par la décision de rompre. Que le Remain, donc le Remain c'est ceux qui veulent rester, Remain dans l'Europe, ce qui est possible sinon... attendez, j'ai perdu le fil là. Que le Remain l'emporte et sa tête pourrait rouler de toute façon. Alors voilà, le texte se poursuit, mais c'est une belle analyse de la situation dans laquelle se trouve David Cameron aujourd'hui, donc au moment de découvrir le verdict du peuple britannique concernant un possible Brexit. Il y a aussi dans le média indépendant Ricochet, qui est un média indépendant canadien, francophone, anglophone, c'est dans le versant francophone du site, un texte signé Francis Terrien. Il se concentre sur les voix de gauche, Francis Terrien, dans ce papier, avec les deux campagnes au coude à coude, autour de 45% chacune, l'issue du référendum Brexit d'aujourd'hui sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne est plus qu'incertaine. Ricochet s'est entretenu avec deux militants, l'un est en faveur du Brexit, donc pour la sortie, alors que l'autre s'y oppose. Donc en faveur du Remain. Aucun d'entre eux ne sait vraiment qui l'emportera. Les progressistes sont divisés sur la question. Même le parti travailliste britannique qui supporte officiellement la campagne Remain, donc en faveur du maintien dans l'Union européenne, doit composer avec des grosses divisions internes dans le parti. Le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, a d'ailleurs lui-même voté contre la présence du Royaume-Uni dans le projet européen en 1975 et encore une fois en 1993. Certains de ses partisans, lors de la course à la chefferie de l'été dernier, été 2015, militent d'ailleurs aujourd'hui pour la sortie de l'UE. C'est le cas de l'activiste John Rees, connu notamment pour son implication dans la coalition Stop the War contre la guerre en Irak. C'est aussi le cas du chargé de cour et activiste de Counterfire, un groupe militant Donc Tom Whitaker, qui estime que les politiques d'austérité à travers l'Europe sont entre autres attribuables à l'Union européenne en tant qu'institution. Le pouvoir réel appartient à des non-élus comme la Commission européenne et le Conseil européen, dénonce Tom Whitaker. Donc un autre sur lequel le Parti travailliste ne peut pas compter. Donc c'est à l'image des divisions de la gauche britannique. Autrement, c'est ça. Donc, cet activiste, Tom Whitaker, croit que Jeremy Corbyn est dans une position très ambiguë, un peu comme Cameron qui doit composer avec ses propres troupes, puisque Jeremy Corbyn, s'il est élu en 2020, il faudra qu'il affronte l'élite européenne pour faire appliquer son programme qualifié de radical. Il y voit un compromis tactique pour éviter de diviser les travaillistes, alors que son élection à la tête du parti avait déjà polarisé les membres. Voilà, Corbyn est lui aussi dans une position très délicate. Du côté de la gauche pro-Remain, il y a Ricochet a pu s'entretenir avec Zach Muddle, qui croit qu'une victoire de la campagne du Brexit forcerait les politiques anti-immigration et donnerait du vent dans les voiles aux partis d'extrême droite de la Grande-Bretagne. Donc Zach Muddle comprend toutefois les motifs de certaines personnes à vouloir quitter l'Union européenne parce que lui-même croit que la Confédération doit changer étant donné ses nombreux problèmes démocratiques. Alors, difficile justement de cerner, c'est assez complexe le paysage politique en Grande-Bretagne à quelques heures de connaître les résultats. On voit que dans les différents partis, on a des pro-exit et des pro-remain. Donc, ce Zach Muddle, qui est pro-Remain, interviewé par Ricochet, demeure toutefois optimiste. Même si l'Union européenne demeure une institution au service des grands capitaux, l'accroissement de l'intégration entre les pays et l'amenuisement des frontières permet une solidarité internationale qui facilite le combat contre l'austérité et le néolibéralisme, explique-t-il. Alors, voilà les dilemmes qui déchirent la gauche dans cet article du portail ricochet.info. C'est sous la plume de Francis Terrien. On va retourner en musique. On va écouter Benjamin Biolay avec la pièce Miss Miss. Je vous réitère qu'on aura le plaisir de s'entretenir avec Marc Lortie au retour dans quelques minutes. Marc Lortie a été ambassadeur du Canada en Europe, en Espagne, et en France, en l'occurrence. Il va nous livrer dans quelques minutes son analyse de la campagne du Brexit qui s'est achevée aujourd'hui. Donc, c'est dans quelques minutes dans le débrief. Restez à l'écoute.
Sur les sentiers de l'apocalypse, qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. Miss Miss, je t'ai dans la peau tout entière, tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois la liste, je me rapproche de la terre. C'est trop triste, c'est oublié tout entière. Je ne peux pas, non, me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi, me priver de toi. Si triste, je je ne sais plus comment faire. Je vois des 8-6, je ne suis plus du tout fier. Mourir c'est trop triste, c'est finir sous la terre.
Le débrief avec la pièce Miss Miss. Merci d'être à l'écoute de CILS. L'émission se poursuit jusqu'à 17h. Alexis Gagnon au micro. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Marc Lortie. C'est un honneur. Marc Lortie, ex-ambassadeur du Canada en Europe, en France et en Espagne. Longue carrière diplomatique. Bonjour, Monsieur Lortie.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on parle du Brexit qui vraiment a culminé aujourd'hui. On n'a pas encore les résultats. On sait que certaines circonscriptions sont rentrées, en guillemets, mais il est encore très tôt pour vraiment y aller de résultats. Est-ce qu'on peut parler de l'Union européenne et de ce qu'a gagné au fil des décennies la Grande-Bretagne à faire partie de cette Union? Est-ce que ça a valu la peine?
Je crois que ça a valu la peine pour leur économie et pour l'ouverture de la Grande-Bretagne sur le continent européen. Ils sont entrés dans l'Union européenne, qui s'appelait à l'époque, en 1973, les communautés économiques européennes, la CEE, la Communauté économique européenne. Ils sont entrés en 73 après un très long débat parce que l'économie britannique était beaucoup plus liée aux pays du Commonwealth qu'elle l'était aux pays du continent, comme ils disent là-bas, du continent européen. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, 43 ans plus tard, c'est quand même un long mariage entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, 43 ans plus tard, eh bien, vous voyez une très grande prospérité du côté britannique avec leur commerce qui est à 50% ou presque 50% lié au continent européen. Et en faisant de Londres également une très grande capitale financière, bref, l'Europe a été et a permis à la Grande-Bretagne de prospérer au cours de ces années, sans aucun doute. Mais pas uniquement à cause de ça, à cause des politiques britanniques, bien sûr, également leur niveau d'éducation, leur ouverture sur l'ensemble du monde. Alors, les Britanniques ont quand même une économie très dynamique. Ils sont la cinquième économie mondiale. Mm-hmm. Donc, mais le fait qu'ils appartiennent au grand tout qu'est l'Union européenne est un plus pour eux.
Mais quelle mouche a bien pu piquer tous ces mouvements pro-exit? Qu'est-ce qui les rend si mécontents et pourquoi veulent-ils quitter l'Union?
Écoutez, c'est une très bonne question. Il faut dire que la Grande-Bretagne n'a jamais été très heureuse dans l'Union européenne comme telle. Elle ne partage pas l'union dite politique, l'union sociale que les Européens envisagent et construisent. Petit à petit, la construisent, leur union politique et leur union économique et sociale. Pour eux, ils aiment davantage le fait que l'Union européenne leur a donné un marché unique, leur a donné des liens économiques avec l'ensemble de l'Europe beaucoup plus fluides que c'était le cas dans le passé. Alors, ils aiment un accord de libre-échange, ils aiment un accord, le marché unique, mais ils n'aiment pas, par nature, ils n'aiment pas l'union politique, ils n'aiment pas l'union sociale et ce que le reste de l'Europe signifie. Alors, ils ont toujours été un peu l'enfant terrible dans l'Union européenne. Il faut se rappeler que même si Maggie Thatcher, en 1975, nous sommes en face du deuxième référendum que les Britanniques tiennent.
Oui.
1975, ça fait quand même 41 ans, ils ont tenu un référendum qui a été gagné largement au niveau de 67% en faveur du maintien de la Grande-Bretagne.
Oui.
Mais 41 ans plus tard, ils décident de refaire. Mais pendant ces 40 ans, ils ont toujours été l'enfant terrible de l'Union européenne. L'enfant terrible parce que ils hésitent à avancer quand les autres Européens veulent aller un peu plus vite. Oups, les Britanniques mettent le pied sur le frein. Et ils ont développé au cours de ces quatre décennies, ils ont développé un statut spécial à l'intérieur de l'Union européenne. Mais même ce statut spécial, pour certains, est jugé trop contraignant. Alors, vous avez vu la campagne disant « nous voulons rétablir la souveraineté du Parlement britannique, comme si les fonctionnaires de Bruxelles imposaient leur diktat sur les Britanniques. Il y a bien sûr des règles communautaires, un jeu communautaire que tous les membres de l'Europe doivent respecter, y compris les Britanniques. Et ça, ben, ça dérange une partie de l'électorat britannique et ça dérange une partie des partis politiques. Les partis politiques se sont divisés au cours des dernières années. Il y a eu la formation du parti UKIP, c'est-à-dire le parti qui vise l'indépendance de la Grande-Bretagne et où, en d'autres mots, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ils se sont formés. Et puis, petit à petit, le parti dominant, qui est le parti de David Cameron, le premier ministre, s'est également divisé. Et son parti est aujourd'hui très divisé entre les pro-Europe et les anti-Europe. Alors,
qu'avez-vous pensé de la campagne? Est-ce que elle a été ponctuée quand même de discours inspirants? Il y a eu un événement fâcheux, on le sait, on pourra le mentionner. Mais est-ce qu'il y a quand même eu de beaux plaidoyers au cours de cette campagne?
C'était une campagne très... elle a été brutale, cette campagne. Elle a été très, très dure. Elle a divisé, on parlait de la division dans les partis politiques, mais elle a divisé les familles. Elle divise les générations. Les plus vieux sont en faveur de dire « Ah bien, écoutez, nous, on a connu la guerre, nous, on s'est tenu debout, on sera toujours capable de se tenir debout, on n'a pas besoin des autres. » La jeune génération, elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus pro-européenne, elle est très engagée, elle voyage à travers l'Europe avec beaucoup de facilité. La jeune génération, dans les familles, les jeunes sont en faveur du maintien de la Grande-Bretagne. Alors, c'est un référendum qui va laisser des traces et qui va laisser des traces négatives. Vous avez fait la référence à l'assassinat brutal de la jeune députée travailliste de 41 ans, 42 ans aujourd'hui ou hier, je crois. Elle aurait célébré son anniversaire, Jo Cox, qui a été brutalement assassinée la semaine dernière. Et je crois que cet assassinat politique va laisser un nuage très sombre sur cette campagne du référendum. Une campagne qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas obligatoire. C'est le premier ministre Cameron qui, il y a 3 ans, pour calmer les uns et les autres, pour s'assurer que son parti, le Parti conservateur, n'allait pas être dépassé par le nouveau parti UKIP à sa droite, eh ben, il a promis un référendum s'il était réélu pour un deuxième mandat.
Est-ce que ce sera ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus si Cameron remporte son pari? Est-ce qu'il va quand même se retrouver dans une situation fâcheuse? Il y a pas de, on dirait que c'est un catch 22 pour lui là actuellement.
C'est une situation très difficile qu'il ne pensait pas qu'elle serait aussi difficile, parce que très rapidement, lorsqu'il a annoncé la tenue d'un référendum en février dernier pour le 23 juin, son parti s'est scindé en deux et son cabinet s'est scindé en deux. Alors, demain matin, nous allons voir les résultats qui seront compilés de façon finale seulement au petit matin,
oui,
en Grande-Bretagne. Mais David Cameron va avoir un problème, s'il gagne ou s'il perd. Son problème sera s'il perd. Il fera face très rapidement à une fronde pour qu'il démissionne, sinon à l'intérieur de son parti, de la part de l'opinion publique. Et s'il gagne par une courte paille, s'il gagne par une courte majorité, eh bien, il devra utiliser tous ses talents de politicien, d'homme politique et de diplomate pour rapiécer son cabinet et son parti, vraiment divisé en deux. Donc, les lendemains pour David Cameron sont des lendemains compliqués.
Bon, à suivre. Et qu'adviendra-t-il des forces politiques de l'Écosse qui sont très attachées à l'Europe? C'est le cas aussi en Irlande du Nord et au Pays de Galles. On aime l'Europe. Le vote pro-Remain est très fort dans ces régions. Est-ce que un Brexit pourrait susciter des troubles, peut-être des remises en question du Royaume-Uni, peut-être quelque part?
Ben, il ne fait aucun doute que l'unité même de la Grande-Bretagne sera remise en question par les nationalistes écossais, les nationalistes irlandais de l'Irlande du Nord, qui tout à coup risquent de voir l'Irlande du Nord se développer une frontière avec l'Irlande mm-hmm. au sud d'eux, et ils ne veulent pas voir ça. Alors, il y a dans cette campagne référendaire toutes sortes d'alliances entre les conservateurs à Londres, les nationalistes de Sinn Féin en Ulster, en Irlande du Nord, les nationalistes écossais qui sont très forts en Écosse et qui sont très pro-Europe. D'ailleurs, les mouvements nationalistes en général en Europe sont très pro-Europe, à l'exception d'un seul.
Front National.
Le Front National et en France, et vous avez les deux mouvements très forts en Espagne, mm-hmm. le mouvement catalan. Les Catalans oui. sont très pro-Europe, mm-hmm. et vous avez les Basques, et les Basques sont très isolationnistes.
Oui.
Et c'est plus compliqué. C'est une histoire plus compliquée. Oui. On n'entrera pas dans l'histoire.
Ancienne.
Et
oui.
très ancienne dans cette histoire-là. Oui. Mais en général, nous pouvons dire que les mouvements nationalistes régionaux, plus locaux, sont pro-européens parce qu'ils se retrouvent dans l'Europe.
Très bien. Et donc, on va se retrouver prochainement avec une analyse, je l'espère. Je ne sais pas si vous êtes dans le Grand Victoria durant les mois d'été. J'essaierai de vous convaincre de revenir au studio de CILS, bien sûr. Merci, M. Lortie, d'avoir éclairé notre lanterne à propos du référendum du Brexit.
Avec grand plaisir.
On va écouter quelques mesures de notre générique et on se retrouve pour le mot de la fin. À tout de suite. We'll be right back. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition du débrief. Merci d'être à l'écoute de CILS. On va retrouver l'équipe d'Allo la planète dans quelques minutes à 17h. Je vous mentionne qu'il fait actuellement 18 degrés à Victoria. La météo de ce soir est nuageuse. Ce sera environ 18-17 en soirée avec un ciel gris, une probabilité d'averse de 40%. Demain pour la Saint-Jean-Baptiste, mélange soleil-nuage, probabilité de 40% maximum de 19 degrés. On va peut-être se faufiler entre les nuages et obtenir une belle journée ensoleillée pour la Saint-Jean 2016. C'est ce qu'on espère. Je vous mentionne également en terminant que l'Assemblée générale annuelle de CILS a lieu tout à l'heure. Ça commence à 18h30, l'ouverture des portes à l'école Victor Brodeur. L'AGA en tant que telle va débuter à 19h. Donc c'est un rendez-vous, c'est une invitation. Au plaisir de vous voir en personne à l'AGA en cette veille de Saint-Jean-Baptiste. Là-dessus, on va se laisser sur une pièce de la formation Gasoline intitulée Parfaite, et c'est bien sûr Allô la planète dans quelques instants. Bonne soirée!
Je prends le malheur à bras le corps.